passe de sport. Mais surtout de la vie avec notre chum Pierre Houde. Gravel dans le retour avec Denis, Véro, Audrey et Pierre Houde.
Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. C'est avec énormément de plaisir qu'on retrouve notre ami Pierre Houde. On aurait souhaité de meilleures circonstances, mais le Canadien en série, ça s'est terminé. Ça s'est terminé en 5 face aux Capitals de Washington. Et l'heure est au bilan aujourd'hui. Salut Pierre, comment ça va?
Salut Denis, bonjour Véro, salut Hello. Audrey, salut Hello. Tout le monde. Ben oui, l'heure est au bilan. Mm-hmm. On aurait peut-être souhaité que l'heure soit un match numéro 6, ou ultimement un match numéro 7. Je dis « on », je parle bien sûr de la grande majorité des amateurs de hockey, des partisans du Canadien, mais je pense qu'avec le recul, d'abord, si tu vois ce qui ressort du bilan aujourd'hui, la liste des bobos est interminable.
Ben oui.
et certains étaient plus amochés qu'on le pensait. Tu commences par la double déchirure à l'aine de Samuel Montembeault.
Lui serait pas revenu des séries, là, je veux dire.
Non. Puis il a tout de suite mis une croix sur le championnat du monde. Mm-hmm. Et c'est deux déchirures. Bon, on n'est pas médecin, on n'est pas des spécialistes, mais lui a dit au moins c'est au milieu du muscle, c'est pas dans les points d'attache. Donc, il n'y aura pas de chirurgie. On va attendre que ça reprenne ensemble et que ça se guérisse. Anderson n'a pas voulu dire ce qu'il y avait, mais c'était en haut et en bas du corps.
Oh, il était magané.
Lui, ce qu'il a dit, c'est que s'il n'avait pas été en série, il n'aurait carrément pas joué.
Exactement. Exactement, Véro. Ça donne une idée du ouais. caractère et de l'engagement de cet athlète-là. Finalement, Patrick Laine, on a su que c'était un doigt fracturé.
Mm-hmm. On a un collègue qui l'avait remarqué en le voyant applaudir. Il faisait attention à ses mains.
Mais oui, mais écoute, en plus, sa seule vraie vocation au hockey, c'est d'être un franc-tireur, un tireur d'élite, d'un doigt fracturé. Je n'ai pas cru entendre Yoel Armia encore, mais Armia, c'est pas compliqué. Il n'est pas capable de tirer de son côté droit, de son côté fort depuis des semaines. Vous vous rappelez quand il est tombé sur son poignet dans le voyage dans l'Ouest? On avait la reprise très claire. Fait que, tu sais, tu vas les ajouter.
Ben oui.
David Savard, ça craque de partout. Bref, c'est un... je pense qu'on commence à comprendre là, deux réalités. La première réalité, c'est que l'équipe la plus expérimentée et la plus talentueuse, globalement, a gagné son premier tour. Et d'ailleurs, Denis... Je pense que pour une des rares fois, on n'aura peut-être pas beaucoup de surprises au premier tour, incidemment.
Bien là, ça a de l'air parti comme ça. Hein. Les Leafs de Toronto ont réussi à battre la malédiction de la première ronde. Les Oilers passent en deuxième ronde. Les Capitals, évidemment. Les Hurricanes de la Caroline, oui.
Oui. Alors, tu sais, on disait, ah, tu vas avoir des surprises. Finalement, on s'enligne peut-être là, pour une première ronde plutôt conventionnelle. Et donc, ça, c'est la première réalité qui rejoint le Canadien.
Oui.
La deuxième réalité, c'était une équipe usée. Mais là, on le voit, là, c'est une équipe, et c'est d'autant plus méritoire. Puis ça va donner un incroyable capital de sympathie envers l'équipe. Même les Caps ont été dithyrambiques. C'est une équipe qui était usée à la corde, mais qui a tout donné... D'abord pour rentrer en série, mais elle est rentrée donc en série avec ce niveau d'usure qu'on comprend mieux aujourd'hui. Là.
Pierre, j'arrive peut-être en retard à la fête, mais j'ai peut-être compris une partie du succès des Capitals de Washington cette année. J'ai un man crush envers l'entraîneur des Capitals de Washington, Spencer Carberry, son nom, qui a passé de longues minutes après chaque match à louanger le Canadien, à parler de leur férocité, à parler de leur ardeur au travail, à leur rendre hommage. Avant de commencer le point de presse, il a voulu souligner la retraite de David Savard. Je trouve que ce gars-là pue la modernité dans un monde d'entraîneurs un peu vieux, grincheux et ainsi de suite. Je l'ai trouvé inspirant dans les points de presse. J'avais le goût de jouer dans son équipe. C'est pas compliqué, là.
Mais je te comprends très bien, Denis. Et puis, c'est... Je peux pas parler d'un clash parce que je regarde ce que les Rangers viennent de faire dès qu'il a été libéré par les Pingouins. Ils se tournent vers un... Je ne veux pas dire un vieux gueulard, mais Marc d'abord l'imite tellement bien. Marc a joué pour Mike Sullivan.
Ouais.
Il l'imite tellement bien. Là. Mais c'est ça. Il y a des coachs qui sont naturellement gueulards.
Mm-hmm.
Mais c'est correct. S'ils sont à l'aise avec ça, puis si les joueurs comprennent dans quelle direction tu vas. Mais bref, Donc, tu vois, il y a des équipes qui sautent sur les entraîneurs d'expérience. Il n'y a qu'un pas à franchir pour que Daniel Brière saute sur Rick Tocchet aussi, qui a dit qu'il ne reviendrait pas à Vancouver. Ouais. Mais t'as aussi une génération qui... Sais-tu avec qui elle a grandi, cette génération-là? Parce qu'il est... Il n'est plus dans la catégorie des jeunes-jeunes. Il y a une génération qui a grandi en arrière de John Cooper. Cooper, à Tampa, pour moi, fait partie des entraîneurs modernes, des entraîneurs nouveaux, des entraîneurs qui ont de nouvelles méthodes de communication, mais qui comprennent surtout les nouvelles réalités en communication. Et tu as tout à fait raison, Spencer Carberry se place directement dans cette lignée des nouveaux entraîneurs. Puis regarde comment il a semblé plein d'admiration et plein de complicité avec Martin Saint-Louis aussi. Donc, Martin fait partie de cette nouvelle vague. Oui. Je sais qu'on l'a souvent tourné en dérision. Pas en dérision, mais on l'a souvent caricaturé, Martin Saint-Louis, dans ses images, dans sa façon imagée de parler de ses philosophies. Mais il y a toujours eu... Puis tu le sais, Denis, sur ta tribune à toi, je l'ai toujours... Je ne dirais pas défendu, mais je l'ai toujours appuyé.
Oui, c'est vrai.
Derrière ces métaphores, derrière ces images, il y a toujours un fond qui n'est pas nécessairement scientifique, mais un fond qui colle parfaitement à la réalité moderne du hockey. Puis je pense qu'il y avait, il y avait beaucoup de tension sur la glace, mais dans les coulisses, je pense qu'il y avait beaucoup d'admiration pour l'une et l'autre des deux équipes, particulièrement ce que le Canadien a fait dans son parcours extraordinaire à la fin. Là,
si on fait le bilan de l'année, puis j'en jasais avec notre ami Max quand on avait nos discussions de sport cette semaine, l'image que j'utilisais, Pierre, la réussite du Canadien cette année, c'est d'avoir commencé avec l'objectif d'être dans le mix. Puis là, on termine, puis on est dans un autre mix. On a changé de mix. Là, on est dans le mix des équipes à craindre pour les prochaines années et des équipes peut-être que l'an prochain ou dans deux ans, tu ne voudras pas pogner en première ronde.
Et moi, je vais ajouter un autre élément du mix. C'est que là, tu commences peut-être à intéresser des joueurs autonomes aussi qui n'auraient pas voulu venir. Puis je sais qu'on parle tout le temps de la Sibérie, puis de Montréal, puis c'est dur, puis je peux pas faire mon épicerie tranquille, puis blablabla. Le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème pour un joueur autonome intéressant, parce que là, tu es rendu à la deuxième, à la troisième couche de bâtir ton équipe, tu parles de vétérans. Les vétérans, ils cherchent quoi d'abord? Oui, ils cherchent un bon contrat. Oui, si l'épouse est dans le mix ou si l'épouse est dans la prise de décision, oui, tu veux que ton épouse soit heureuse d'aller à ta nouvelle équipe. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas bâtir une équipe à partir de zéro. Tu veux aller au contraire. Tu veux avoir une équipe sur laquelle il y a des bases jeunes, établies, à 100% sûr. Puis toi, ce que tu veux faire comme vétéran, c'est venir peaufiner ça. Alors, donc, il y a beaucoup de retombées positives de cette chose-là. Cela dit, je regardais les Sénateurs hier soir contre les Maple Leafs.
Les autres aussi, ça va bien, là.
Ça va bien, Véro. Puis le cœur était là, puis l'énergie était là. Mais t'as vu qu'en bout de ligne, des petits détails font que les équipes d'expérience, les équipes plus talentueuses finissent par passer. Donc, moi, en voyant Ottawa hier, puis en revoyant que Détroit n'a pas participé aux séries, et Détroit, ils sont supposés être proches depuis plusieurs années, Buffalo, qui n'arrête pas de rebâtir, puis qui ont exclu des séries depuis quoi, 12 ans, ça me rappelle à quel point on atteint un niveau tellement intéressant, mais encore tellement loin du niveau de domination, du niveau de plénitude qui t'amène vers une finale de Coupe Stanley, puis ultimement vers une conquête. Alors,
ça
veut pas être rabat-joie.
Ouais. Mais ça veut-tu dire, Pierre, qu'il y a beaucoup de travail à faire cet été? Tu as fait mention des joueurs autonomes. Je pense qu'on est en mesure présentement de voir sont où les trous, sont où les carences, sont où les besoins. Puis j'imagine que déjà, on a une liste d'objectifs là, pour la saison estivale.
Bien sûr. Puis il faut que tu regardes aussi qu'est-ce que Laval va te donner.
Oui, c'est vrai.
Parce que le camp d'entraînement, je te rappelle, tu demeures une équipe jeune, tu demeures une équipe qui vient de sortir du sol, là, mais ton salaire, il a l'air d'être solide, mais t'es rendu là, t'es pas rendu plus loin que ça. Donc, il faut que t'attendes de voir qu'est-ce que Laval va te donner. Tu sais, je pense bien que Christian Dvorak ne fera pas offrir de contrat, mais pourquoi pas? Mais je suis pas dans le secret des dieux. Gorton et Hughes vont parler lundi. Mais moi, personnellement, je vois, disons, des joueurs qui n'ont plus de contrat ou des joueurs qui pourrait peut-être être susceptible d'être échangé, Il faut toujours que tu mettes ça en relation avec qui peut prendre la place à partir de l'automne. Est-ce que c'est Owen Beck qui est un choix assuré puis tu peux laisser partir Dvorak? Est-ce que tes jeunes joueurs de défense, le problème, c'est qu'on aurait aimé voir Ryan Backer se développer cette saison. Il a été blessé toute la saison. Logan Mailloux a été moins flamboyant qu'on pensait. Bon, est-ce qu'il y a quand même des solutions concrètes du côté de Laval? Donc, t'as tout ça en même temps pour une équipe qui en est là où le Canadien en est dans son histoire.
J'ai vu ça beaucoup passer dans les dernières heures, Pierre. Trouver un joueur de centre pour accompagner le talent de Demidov, c'est-tu sur la liste des objectifs, ça, d'après toi?
Bien, c'est sur la liste des objectifs si tu baisses les bras sur Kirby Doc. Si tu baisses les bras sur Kirby Doc comme joueur de centre, là, on s'entend, là, t'as un trou à combler. Puis si tu libères Dvorak, je te parlais d'Owen Beck, donc oui. Puis New York, on s'entend, je pense pas que ce soit la solution comme deuxième joueur de centre. Alors, la direction a des réflexions très sérieuses à faire. Tes questions sont très bonnes, Denis. La direction a des réflexions très sérieuses à faire dans son évaluation. Mais celui qui retient toutes les Moses de pièces du puzzle, c'est Kirby Doc. Il y a tout pour être ton vrai bon deuxième joueur de centre. Imagine-toi un deuxième trio, Laine, Doc, Demidov. Bon, j'ai mis Laine là parce que moi, j'y crois encore.
Oui, bien là, tu viens de parler de deux joueurs que bien des partisans sont prêts à lancer la serviette tout de suite. Mais s'ils reviennent à leur plein potentiel, les deux, c'est sûr que ça peut être une combinaison explosive. Faut y croire. Faut qu'eux-mêmes y croient d'abord. Il y a des conversations de bureau sérieuses à avoir avec tous ces joueurs-là. Là.
Ah, mais hein. Puis écoute, penses-tu que Jeff Gorton puis Kent Hughes mettre tout de suite Dvorak dans la poubelle?
Non.
Ton trio le plus vaillant, le plus stable, qui a encadré tes jeunes joueurs de talent, ça a été celui de Dvorak avec Anderson et Gallagher. Mais par contre, un directeur général comme Kent Hughes, puis un gars d'expérience comme Jeff Gorton, ils finissent par savoir, Denis, combien est-ce que Dvorak risque d'avoir sur le marché des joueurs autonomes. Tu le sais à peu près quelle va être ton assiette. Donc, c'est à toi à gérer ton plafond. Le plafond augmente, les perspectives sont bonnes pour les prochaines années, mais il faut que tu le gères intelligemment. Donc, ce sont tous ces défis-là que tu décris très bien qui attendent l'équipe.
Un trip à trois de gardien de but, je pense que le Canadien s'en fera pas un autre. Là, ils ont déjà goûté, mais c'est plate. Hein? Dobesch est bon, Montembeau est bon, puis Caden Primo, depuis qu'il est redescendu, brûle la ligue au grand complet. Y a-tu un move à faire cet été avec une de ces ressources-là ou ça presse pas encore pour déterminer qui a le réel potentiel de devenir fiable dans la Ligue nationale de hockey? Parce que des gardiens de but qui ont des bonnes saisons, il y en a plein. Des gardiens de but qui ont des bonnes carrières, il y en a moins.
Oui, mais c'est vrai, c'est très bien dit. Ton radar t'amène vraiment à un très bon endroit. Je suis content que tu m'ouvres la porte. C'est intéressant, la dimension. Mais je vais t'amener à la grande différence par rapport à il y a un an à peine.
Oui.
On pensait que Caden Primo, sa carrière était probablement terminée. C'est ou que jamais la Ligue nationale allait y ouvrir des portes. Il vient de ramener tout le monde à l'ordre. Pourquoi? Parce que Primo a eu enfin ce qu'il n'avait jamais eu dans sa vie, c'est-à-dire de la rondelle, puis de la rondelle, puis de la rondelle dans la Ligue américaine. Appelle ça la COVID, appelle ça tu ne veux pas le perdre au ballottage. Il y avait toutes sortes de raisons, mais il ne les avait pas ces minutes-là. Là, il les a eues. Puis il était bon.
Oui.
Dobesch, moi, je trouve que ne minimisez pas ce qu'il a montré pendant les séries.
Il a été exceptionnel. Il a sauvé sa job.
Puis moi, je te dis, Denis, et c'est Marc qui pourrait te le dire beaucoup mieux que moi, techniquement, il y a du travail à faire pour Dobesch. Mais souvent, Marc, il me dit, sa lacune technique vient de sa jeunesse, vient de son manque de, je dirais pas de confiance, mais un peu, le manque de confiance que tu as de ne pas en faire trop pour rien. Tu vois ce que je veux dire, là?
Très bien.
Alors, donc, ça se travaille. Puis Samuel Montembeau, mais je pense qu'il a prouvé qu'il est un numéro un. Alors là, on va commencer le domino, puis on va aller à Jacob Fowler.
Qui est là, lui aussi, qui existe.
Ben oui, j'ai oublié d'en parler, c'est vrai.
Parce que Jacob Fowler arrive avec toute la gloire universitaire dans la réalité du Rocket. Lui aussi, tu veux qu'il y ait 5 millions de rondelles l'année prochaine dans la Ligue américaine. Est-ce que tu veux Fowler avec un vétéran comme Primo ou est-ce que tu veux Fowler avec un auxiliaire correct? Et donc, maintenant que Kaden Primo a une valeur beaucoup plus grande qu'il y a un an à peine. Est-ce que c'est lui qui va devenir matière à échange? Est-ce qu'on va plutôt choisir de dire, ben, on a peut-être notre plus jeune qu'on est prêt à vous libérer parce qu'on pense que Montembeau Primo, c'est la façon... Bref, tu as un de tes actifs qui a soudainement beaucoup plus de valeur sur le marché.
C'est vrai, c'est vrai.
Et je pense que le Canadien n'aura pas le choix parce que là, tu vas avoir trop... Là, tu vas avoir et trop de talent, enfin, guillemets, là. T'es peut-être pas de trophée Vézina là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas avoir trop de guerriers ou de prospects pour qu'ils puissent à la fois performer et à la fois se développer.
Il y a des choses qui ne demandent pas, Pierre, puis moi, je me souviens pas, et je fais appel à ta conscience vénérable, je me souviens pas d'une élimination aussi sereine du Canadien de Montréal auprès de la confiance des partisans, auprès de la confiance dans le vestiaire. Des fois, c'est en deuxième ronde ou en demi-finale que ça se passe, puis le feu est pogné, puis là, faut tout échanger, puis il faut repartir à zéro, puis le goaler, ça fait pas, puis Souben, ça fait pas, puis là, il n'y a pas de ça. C'est sûr qu'il y a des larmes dans le vestiaire. C'est sûr qu'il y a des partisans qui y ont cru puis qui sont déçus, mais ils regardent en avant, puis tout le monde est serein. C'est le mot que j'ai trouvé cette semaine.
Ben, tu viens de trouver la bonne raison. Regarde en avant. C'est ça que les partisans ont appris à faire.
Oui.
Dans les dernières années. Ils ont appris à regarder en avant. C'est bien beau regarder en avant, mais si tu vois jamais ta route, si tu vois jamais la direction claire vers laquelle tu t'en vas, ça vient frustrant. Ce que le Canadien a réussi à faire, c'est... Tu sais, je t'avais commencé à te dire il y a quelques semaines, il fallait avoir des objectifs. Après ça, on a commencé à mettre des noms sur les objectifs, ou des noms sur les besoins.
Ouais.
À partir du moment où tu mets des noms... L'autre étape, c'est évaluer ces noms-là. Waouh, ils ont du talent. Waouh, ils ont du potentiel. Waouh, ils continuent à progresser. Waouh, ils ont du cœur au ventre. Waouh, c'est des compétiteurs. Donc, tu commences à être capable d'avoir l'espèce de casse-tête qui te permet de regarder en avant. Mais si tu n'as pas les pièces pour regarder en avant, et c'est ce que les partisans, dans le fond, n'ont pas eu avant ce dernier mouvement de relance chez le Canadien. Et là, je te dis, puis je veux pas qu'on s'emballe trop, mais là, je pense qu'on a un contexte qui permet d'être intéressant pour des joueurs autonomes.
Oui.
Puis on verra la flexibilité qu'on a, mais on devient intéressant soudainement comme formation d'avenir.
Pierre, parlant de regarder en avant, on va regarder ce qui se passe en fin de semaine. Puis ça fait drôle de parler d'un circuit comme un joueur autonome au hockey, mais le Grand Prix de Miami a signé une prolongation de contrat.
Hey, jusqu'en 2041.
Ouais, c'est assez long,
c'est
ça.
Pas rien. mais tu sais quoi, il y a des gens qui sont encore très critiques sur le circuit de Miami parce que, écoute, c'est pas compliqué, tu tournes autour du stade des Dolphins. pour l'exotisme, on repassera.
C'est très bien résumé, mettons.
Tu te rappelles, ils ont bâti des petites marinas artificielles.
Oui, là, oui.
Bateau, ça fait un peu... Bon, comment dire?
Ça fait un peu tour de train aux Galeries de la Capitale, effectivement.
Oui, oui, oui. Le petit train chez Eaton. Moi, c'était chez Eaton, au centre-ville, quand j'étais petit. Ça fait un peu ça. Mais il reste que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour celui qui a développé ce projet-là, qui s'appelle Stephen Ross. Stephen Ross, c'est le propriétaire des Dolphins. Mais je sais que vous aimez beaucoup New York tous les deux. Stephen Ross, c'est aussi le grand concepteur de Hudson Yards à New York.
Le gros centre commercial, tout le concepteur qu'on a développé, là.
C'est magnifique parce que c'est beaucoup plus que ça, Véro. Hein? C'est de l'écologie, c'est de la verdure moderne.
C'est le
High Line, c'est ça. Mais lui, c'est que son plus grand mérite dans tout ça, c'est d'avoir réussi à bâtir ça par-dessus la terre parce qu'il n'y a plus de terre à Manhattan. J'ai comme développé une certaine admiration pour cet homme-là. Et quand on a parlé d'un Grand Prix à Miami, le premier projet était un peu farfelu. Là. On traversait Biscayne Bay, tu sais, le fameux pont Biscayne qui traverse la baie. Là. Écoute, c'était un non-sens. Là. Les autos ne pouvaient pas rouler là-dessus à 350 km/h avec tous les risques qu'ils pouvaient avoir. Puis on s'est dit, ah, 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 un autre projet qui tombe à l'eau. Ben non! Stephen Ross a dit, écoutez, j'ai une autre solution pour vous, mais venez donc tourner autour de mon stade. On a des stationnements. Le stade lui-même sert d'entrepôt, sert d'exposition. Venez donc, on a de la place en masse. Alors, OK, on va regarder ça. Et ça donne un événement qui grandit, qui gagne en crédibilité, et un événement qui a réussi à décrocher une course sprint. Alors, ça, c'est pas rien. Ça donne. Et c'est drôle parce que j'étais en Floride, du côté ouest, oui, au cours de la dernière semaine, et j'ai été à même de constater un de nos jeunes portiers, là, valet de voiture, il avait tellement hâte qu'il s'en allait à Miami pour voir le Grand Prix. Il avait peut-être 22, 23 ans, le petit gars, puis je me disais, waouh, c'est ça le renouveau des fans. Ouais. Il avait tellement hâte, il pouvait me parler par cœur de tous les pilotes qui étaient là. Merci à Drive to Survive. Et je te l'ai toujours dit, moi, je ne suis pas un fan, mais je suis capable de reconnaître ce que ça apporte. Mm-hmm. Et donc, j'ai senti une très belle vibe pour le Grand Prix de Miami. C'est pas pour rien que la F1, il va d'une prolongation, comme on l'a fait pour le Mexique pour quelques années. Et mon radar très personnel, j'ai aucune source d'information. Mon radar personnel, c'est que je serais pas surpris qu'on fasse la même chose avec Montréal.
Ah oui, ben tant mieux.
Oui, je serais pas surpris. Je pense qu'on voit où la F1 s'en va. La F1 veut consolider ses événements, je dirais pas majeur, parce que majeur un plus que l'autre, non. Mais ces événements solides, là, les événements où il n'y a aucun doute, aucun là, c'est enjeu, clair que la F1 veut les consolider. Et ce que la F1 réalise cependant, c'est qu'il y a trop de Grands Prix en Europe. La F1 veut instaurer éventuellement une rotation entre des pays d'Europe pour que certains pays reviennent à la F1. Hey, pas de Grand Prix de France, Véro, pas de Grand Prix d'Allemagne.
C'est vrai.
C'est un non-sens. Mm. Puis là, ben, y a Madrid qui s'en vient. La maquette a été dévoilée. On va vous montrer ça demain. On va vous faire faire un tour virtuel du circuit urbain de Madrid. Alors, ça bouillonne beaucoup en F1, mais ça bouillonne dans la bonne direction. Mais moi, je lève mon chapeau à Miami par Stephen Ross. Ils ont battu les probabilités ou les mauvaises probabilités. Ils ont réussi à faire tout un travail.
Pierre, je suis très excité de ce que je vais vivre ce soir. Je vais le partager avec toi et tu vas comprendre mon excitation. Ce soir, je sors avec ma copine. Je m'en vais au Grand Théâtre de Québec. Je vais m'asseoir au milieu de la première rangée et un certain Robert Charlebois
C'est ce soir!
Va présenter son spectacle avec l'Orchestre symphonique de Québec. Je me peux plus.
Wow. Ben, je te comprends. Et je vais te dire que oui, je suis un peu jaloux, mais je suis surtout très content pour toi. Parce que, tu sais, ça prouve l'immensité de l'artiste et du personnage. C'est que d'être capable de prendre ses œuvres et puis de les présenter, de les étaler à la symphonique, ça montre à quel point, d'abord, ça montre le respect indéniable qu'on doit avoir envers lui comme collectivité, mais ça prouve à quel point aussi il y avait beaucoup de magie dans son répertoire musical. J'ai tellement hâte pour toi, puis j'espère que tu vas nous faire un bon résumé et un bon bilan. Écoute, tant qu'à faire, envoie-moi une photo.
Oh, absolument, absolument. Puis Pierre, c'est un peu particulier parce que dans les artistes vieillissants, on dirait qu'il y a deux catégories. Il y a des artistes qu'on va voir par pure nostalgie parce qu'ils sont plus capables de performer comme ils ont déjà performé. Puis le cas le plus flagrant, c'est probablement Renaud qui est même pas rendu à 70, mais qui a de la misère à tenir debout sur une scène. Je veux dire, tu vis un moment, mais c'est différent de l'autre catégorie d'artistes dans laquelle je place Robert Charlebois. Du haut de ses 80 ans, c'est une mauvaise liaison, ça, Pierre. Hein? C'est abominable, ça. Hein?
De ses 80 ans, non, c'est bon.
Oui, OK. 80... Je voulais pas me déshonorer devant un vétéran de la communication.
Non.
Donc,
non.
Du haut de ses 80 ans, Robert Charlebois est dans une forme, mon Dieu... qui pourrait rendre jaloux du monde de mon âge qui ont un peu ma shape.
Écoute, je ne veux pas aller dans les genres musicaux, mais regarde Fugain. Oui, j'ai vu un spectacle. Puis Fugain qui est venu à mon hommage en direct de l'univers.
Ben, j'ai fait le saut. Je pensais qu'il y a de l'air figé dans le temps. Dans
c'est
le bon vieux temps.
C'est hallucinant comment il est vraiment figé dans le temps.
Ouais.
Alors, mais c'est ça. On dit, tu sais, McCartney, je comprends qu'il commence à avoir un ride ou deux, là. Mais tu sais, j'ai regardé encore Sir Paul récemment. C'est pas si pire.
Même Ringo, je veux dire, Ringo, on dirait qu'il a stallé entre 55 et 60. Il n'y a pas de l'air d'en avoir 82, là.
Non, exactement. Alors, écoute, si jamais tu réussis à croiser Robert ou Jérôme, je sais que souvent Jérôme accompagne son père, va les saluer de ma part et puis dis-leur que...
Tu parles à Denis, là, il est gêné de même parler à des gens qu'il connaît.
Ah, bon, ben écoute, tu connais Jérôme, au moins, c'est sûr que tu ne te lanceras pas sur la scène pour aller faire un câlin à Robert, mais si jamais ça donne, donne-leur mes plus grandes salutations. Ce sont des... Parce qu'au-delà des artistes exceptionnels comme Robert Charlebois, il y a surtout des êtres humains extraordinaires derrière eux. Ce sont des gens qui ont été non seulement des gens hyper talentueux, mais ce sont des gens qui ont toujours tout donné, leur immense passion, avec une générosité rare. Les grands artistes, c'est ça, les grands artistes, c'est ceux qui font de l'argent, éventuellement, avec leur art, les plus grands. Mais les plus grands, ils ont quoi à la base? Ils ont la générosité absolue de donner ça avec amour à tout le monde.
C'est une des clés de ceux qui durent, assurément. Pierre, on va t'écouter en fin de semaine à RDS pour le Grand Prix de Miami. Welcome back. Tu viens juste de revenir de vacances. Ça a bien été?
T'as un beau temps.
Ça a bien été. Un petit retard. Un petit retard aérien. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça partout dans le monde. J'étais tellement philosophe hier. Les vacances m'ont fait du bien. J'ai dormi. J'ai joué deux petits 9 trous de golf, mais j'ai surtout dormi. Ça m'a tellement fait bien. Alors, j'ai une nouvelle énergie, peut-être pas 100% encore. Et puis demain, écoutez, vous allez être contents. La course sprint à 11h30,
oui.
la qualif à 16h30, et la course à 16h, à 15h30.
J'ai deux petits gars qui font dire « génial, Pierre ».
Bon, tu vois, alors ce sont presque des heures où tu as le droit de prendre l'apéro en nous regardant.
Je vais me donner le droit, absolument. Salut, Pierre, bon week-end.
Bye.
Hey, salut, bon week-end et bonne semaine, à la semaine prochaine. Hey, puis bon show, hein.
Hey, merci beaucoup. Salut, Pierre. Bye.